Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Chers amis de Radio Présence, nous sommes encore dans un temps qui est celui du printemps commençant, et c'est une belle période pour marcher dans la nature, pour admirer la nature, pour marcher. Marcher, ça décante, on réfléchit, on prie, on parle avec, si on est plusieurs, et la marche est bien recommandée au point de vue de la santé physique, la santé mentale, etc. Or, comme nous l'avons eu l'occasion de le dire dans nos précédents entretiens, la forme première de spiritualité dans la Bible, c'est la spiritualité de la marche. Et en effet, Dieu venait rencontrer les amis humains, Adam et Ève, dans le paradis terrestre, venait le soir tranquillement pour déambuler avec ses amis qu'il avait créés, semblables à lui, pour précisément avoir un dialogue avec eux. Et un peu plus loin, dans la Genèse, Enoch, qui est présenté aussi comme un compagnon de Dieu, et on dit dans 5:24 en effet de la Genèse que Enoch marcha avec Dieu puis disparut car Dieu l'enleva. Donc à l'orée de la Bible, l'idéal très haut qui est présenté, ça reviendra d'ailleurs, nous allons le voir avec Abraham, est celui de marcher avec Dieu. Marcher sous la présence de Dieu, en présence de Dieu, et marcher avec Dieu comme avec un compagnon, et nous le disions déjà l'autre fois, et donc c'est l'idéal qui sera présenté après la résurrection de Jésus, lors de la rencontre avec les disciples d'Emmaüs, marcher avec Jésus, même si on ne se rend pas compte souvent, mais Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne. Et ce qui est vrai de Enoch, ce qui était souhaité par Dieu avec Adam et Ève, se retrouve avec Noé, Noé dont le nom, vous savez, la l'arche Noé, le nom signifie repos ou consolation, et c'est bien un nom positif qui surnage, si je peux dire, après le déluge. Donc, Noé, dit le texte de la Genèse 6:9, donc Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu, toujours cela. Donc, comme Enoch, il avait accepté d'être le compagnon de Dieu, et c'est pour la raison pour laquelle il est destiné à devenir le principe d'une humanité régénérée. Et après le déluge, les patriarches, vous savez qu'ils vivent longtemps, mais aboutissent à Abraham, qui sera par excellence l'ami de Dieu, et avec qui nous allons maintenant nous-mêmes cheminer dans ces pages de la Genèse. Pour les Hébreux, de fait, comme pour les disciples du Christ et pour les musulmans eux-mêmes, Abraham est avant tout l'ami de Dieu. C'est son titre privilégié. Il s'accorde à reconnaître dans le personnage d'Abraham un être source qui coïncide avec le début de l'histoire du salut. Auparavant, c'était avant les chapitres 12, c'était la préhistoire du salut, si on ose dire des choses ainsi. Et le texte sacré veut montrer que l'immense fécondité d'Abraham est issue du lien très personnel d'amitié qu'il a uni au Seigneur. Et quand le second Isaïe, c'est la seconde partie du long prophète Isaïe qui a 66 chapitres, dont là, le second Isaïe commence au chapitre 40, quand donc le second Isaïe voudra nourrir l'espérance des Israélites exilés à Babylone, il leur rappellera qu'ils descendent de l'ami de Dieu. « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. » Isaïe 41:8. Et dans les livres des chroniques, qui sont une lecture de l'histoire d'Israël par un Lévite du 3e siècle avant notre ère, on peut noter cette prière aussi. « N'est-ce pas toi, Seigneur, qui es notre Dieu, toi qui, devant Israël, ton peuple a dépossédé les habitants de ce pays, ne l'as-tu pas donné à la race d'Abraham, ton ami, pour toujours ?» Et plus tardivement, le livre de la Sagesse fait allusion à l'amitié du Seigneur et du Patriarche quand il remarque la sagesse passant d'âge en âge en des âmes saintes en fait des amis de Dieu et des prophètes. Et conformément à l'esprit grec, l'amitié est située dans le registre sapientiel, dans celui de la sagesse. On devient ami de Dieu comme Abraham quand on laisse Dieu réaliser en soi et par soi son dessein d'amour conçu dans la sagesse éternelle. Vous savez, la sagesse, c'est pas d'abord quelque chose de cérébral. Et les philosophes, d'après les deux mots clés source en grec, philein, c'est aimer, philos, c'est celui qui aime, et sophia, c'est la sagesse. Donc, un philosophe, c'est quelqu'un qui aime la sagesse. Mais le mot sagesse, en latin, sapere, c'est un mot qui veut dire goûter, déguster, savourer. Donc la sagesse, c'est la capacité de goûter les êtres, les choses, goûter la nature, goûter un bon fruit, goûter un bon vin, goûter la compagnie de quelqu'un, tout ce mot goûter, et c'est la sagesse vraiment en profondeur qui est ainsi manifestée. Et les âmes saintes qui laissent Dieu leur révéler ses desseins reçoivent communication de ses secrets et deviennent ainsi les intimes et les amis de Dieu, car l'amitié vit de la révélation mutuelle que les amis se font de leur cœur. Donc c'est un cœur à cœur. Et dans le Nouveau Testament, saint Jacques parle nommément d'Abraham comme ami de Dieu en relation avec son œuvre, et qui a été son chef-d'œuvre, pourrait-on dire, mais difficile, qui fut le sacrifice d'Isaac. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture, dit saint Jacques. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Ici, l'amitié entre Dieu et Abraham est fondée sur la foi, et toute amitié n'est-elle pas basée sur la confiance en l'autre, au-delà de toute évidence, puisque tout être humain est un mystère insondable. Être l'ami de quelqu'un, c'est s'appuyer avec solidité, le verbe « aman » devient le mot « amen », sur l'être le plus intime de son ami. Croire en lui consiste à être sûr de lui pour la seule raison que c'est lui.